Bon, on voit souvent des enfants qui doivent, je dirais, composer avec plusieurs professeurs dans la même année, mais là, il y a des cas records. On est rendu à quoi? 9 enseignants dans une école à Québec depuis la rentrée scolaire. Et il y a donc pénurie, on le sait, puis c'est toujours très compliqué à chaque rentrée scolaire. Alors, comment on fait pour combattre la pénurie? Comment on fait pour s'assurer, justement, que les enfants ont plus de stabilité dans les écoles?
Wow, tout un enjeu, on le sait. La pénurie, bien entendu, est liée à la main-d'œuvre, mais est liée aussi aux conditions d'emploi des enseignants. Les enseignants qui rentrent ont des conditions salariales moitié moins importantes que des enseignants qui ont de l'expérience. C'est des gens qui vont être bardassés, qui vont passer d'une école à l'autre, parce que quand les directeurs d'école font leur demande de professeurs au début de l'année, ils vont arriver avec des chiffres de 33,4 professeurs. Alors là, tu vas te ramasser comme nouvel enseignant à remplir le point 4. Et quand le professeur quitte, là, tu es toujours dans une situation de repêchage. Tu passes d'un dossier à l'autre. C'est vraiment très, très difficile pour les nouveaux enseignants. Mais moi, j'aurais quelque chose à proposer. Je suis allé sur le site du ministère de l'Éducation du Québec. Et là, je vois la face de Paul.
C'est imprimé l'organigramme.
Je suis en train de te présenter l'organigramme du ministère de l'Éducation, et ça, c'est uniquement les postes de les plus hauts postes, là. Écoutez, ça rentrait pas sur ma fiche 8,5-11. Il a fallu que j'utilise un microscope pour pouvoir lire tout ça. Ça fait ben du monde. Et il se trouve que tout ce monde-là, c'était précédemment probablement des professeurs. Alors moi, j'ai l'impression qu'on devrait regarder un étage au ministère de l'Éducation et se dire, bon, ben cet étage-là, là, on va les prendre puis on va les envoyer dans des classes. On pourrait peut-être faire ça aussi dans une couple d'étages des commissions scolaires. Je fais un peu mon démagogue ce matin, mais il y a quand même quelque chose d'aberrant dans le nombre de personnes qui chapeautent les écoles. Quand on parle à des directeurs d'école, puis j'ai la chance d'avoir des conversations avec plusieurs d'entre eux, les gens me disent, écoutez, si le ministère de l'Éducation, demain matin, là, le building n'était plus là, là, on s'en rendrait probablement pas compte pour une couple de mois. Alors, c'est certainement...
Quand il y a eu les premières statistiques il y a quelques années sur le taux de décrochage des garçons au Québec, des statistiques qui ont été réitérées ces derniers mois en indiquant des écarts phénoménaux avec l'Ontario. En Ontario, on rappelle qu'il n'y a pas d'écart de taux de décrochage entre les gars et les filles. Puis ici, c'est 15%. T'sais. Fait que, et donc, des taux de réussite abyssaux. Ça dit-tu abyssaux ou abyssaux, abyssal en tout cas? Puis des taux de réussite mauvais. Puis et là, on a pris l'école de la Finlande. On avait dit, en Finlande, ils réussissent. C'est quoi le modèle de la Finlande? Bien, c'est l'école où il y a de la responsabilisation et du pouvoir qui est donné à l'école. C'est l'école qui gère ses relations avec les parents. Et pourquoi? Ça, c'est de l'empowerment, comme l'appellent les Américains, puis maintenant le monde entier. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Ça fonctionne qu'il faut que tu aies des gens performants, motivés, encadré, puis une fois que tu as ça, tu leur laisses la liberté. Mais pour ça, il faut que tu les payes correctement pour attirer des bons éléments, donc un élément de convention collective, puis il faut leur faire confiance. Ici, on n'est pas dans ce modèle-là. Là. On est dans le modèle que Alexandre vient de décrire avec un ministère de l'Éducation qui envoie des réformes, puis des façons de faire, puis de corriger les examens à tous les deux semaines, et qui est en train de rendre fou tout le monde. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que on a tous les éléments sur la table. On a une vision commune du problème. Tout le monde, au Québec, ils savent que le taux de décrochage, ça se passe au secondaire, c'est chez les garçons en règle générale. Il y a un problème de démobilisation, il y a un problème d'absentéisme, il y a un problème, ce qu'on voyait dans la presse ce matin, où il y a 8 remplaçants qui se succèdent pour remplacer un professeur. Combien de parents je connais, moi, puis tout le monde, où c'est arrivé?
Quel stress sur l'élève.
Ben oui, énorme. Et donc, on connaît les problèmes. On a la vision commune. Et on a l'argent, parce que le gouvernement a décidé qu'il mettrait de l'argent dans la convention collective cette année. Mais au lieu de prendre tout ça et dire on va faire une analyse commune et un vrai projet de société, on est allé avec la fameuse technique d'un trou, une cheville. Un trou, pouf, une chemise. ECR, ah, c'est pas un bon cours, pouf, une cheville. Les professeurs, on en manque à l'entrée. OK, c'est parfait, on va aller en recruter en Europe, 350 cette année, oura, oura, puis on va leur donner plus d'argent. Les commissions scolaires, il n'y a personne qui va voter pour ça à Montréal. Ah, on va abolir les commissions scolaires. Les directions d'école se plaignent d'être contrôlées par le ministère. Ah, on va leur donner un peu plus de pouvoir, mais on le met en dessous, en deuxième alinéa de la loi. Quel dommage! Quel dommage! Pourquoi avoir fait ça? Il doit avoir une stratégie qui m'échappe, là. Mais moi, j'aurais tellement voulu à ce que on dise le modèle pour le Québec, c'est le modèle de la Finlande, par exemple, un modèle d'empowerment des écoles, de valorisation de la profession. En échange de la valorisation, on va exiger de la présence, on va exiger de la mesure, de la performance, on va exiger de la formation continue, mais on va vous payer pour. Pourquoi? Il est où ce discours-là qui est facile à faire? Je viens de le faire en 5 minutes. Là. Y a-t-il quelque chose que je comprends pas?
On a souvent mentionné, effectivement, que les postes d'entrée étaient mal payés. Mais quand on regarde globalement la profession, on est probablement un des derniers endroits au Canada en termes de rémunération. Même les professeurs les plus anciens, aujourd'hui, sont moins payés que dans le reste du Canada. Donc, c'est globalement une profession qu'il faut revaloriser. Tu l'as dit très bien. Mais t'as fait référence à quelque chose, et j'insiste là-dessus. La confiance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sentent pas qu'ils ont la confiance du gouvernement. Là, on est en train de leur dire, vous avez passé de 32 heures à 35 heures maintenant de formation, puis vous allez avoir également 5 heures que vous allez devoir faire à la maison. Mais maintenant, on va vous dire comment est-ce que vous allez passer vos 5 heures à la maison. Quel genre de message est-ce que ça envoie? On est en train de rajouter du red tape au lieu de donner davantage de flexibilité à des gens qui vont dans ce métier-là. Pourquoi? Pour partager un savoir, parce que c'est la plus belle profession du monde. C'est une profession spectaculaire, la profession d'enseignant, et il faut absolument revaloriser ça.
Tu as tout à fait raison. Il y a un problème de méfiance entre les syndicats, les professeurs et le gouvernement qui est entretenu depuis des années. Ça a commencé par des mauvais salaires. Ça a commencé par une profession mal payée, féminine, dévalorisée, premièrement. Après ça, il y a un fameux adage en Europe de l'Est où il disait « Le gouvernement fait semblant de nous payer, nous autres, on fait semblant de travailler. » C'est ça qui s'est passé en deuxième lieu. Il y a une partie des professeurs qui ont pesé fort sur l'absentéisme. Puis sur les congés à répétition, il y a une partie, là, c'est sans doute une infime partie, j'ai pas la statistique devant les yeux, là, mais on le voit, on le sent dans nos écoles quand on parle à nos enfants, etc., des absences annuelles à répétition, même si c'est juste 10%.
Mais tu sais, quand t'es prof, puis tu te sens même pas soutenu par la direction de l'école en plus, là, ouais. Parce qu'un parent n'est pas content de la note, puis qu'il s'en va voir le directeur, puis le directeur pense à l'image de l'école.
Totalement.
Puis, tu sais, là, à un moment donné, là, tu peux comprendre la frustration de
Alors,
le prof.
Alors, écoute, là, j'ai un autre cas d'un trou de cheville, parce que est-ce que tu dis là, c'est tellement vrai, le clientélisme, puis là, le ministre avait maladroitement mis dans la loi, en plus, l'école va pouvoir changer la note. Là, il l'a retiré, mais il est trop tard, le message est envoyé.
Et... Non, mais là, aux dernières nouvelles, c'était quoi? Là, il envoyait un prof d'une autre école trancher la question.
C'est ça. Mais ça, c'est encore un trou de cheville. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je te donne du pouvoir », puis je t'embauche parmi les meilleurs parce que ça va être une profession bien payée. D'autre part, je te donne du pouvoir, mais je mesure la performance, je t'oblige à la formation continue. Ce qu'on fait, c'est qu'on met du contrôle. Puis ce contrôle-là, ça fait quoi? Ça fait que même les professeurs les plus aguerris, parce qu'il y a un problème de professeurs qui ne rentrent pas, mais il y a un problème de professeurs qui sortent, ils prennent leur retraite plus tôt.
Les gens fondaient beaucoup d'espoir en Jean-François Roberge. C'est quelqu'un qui vient du milieu de l'éducation. Puis aujourd'hui, c'est pas clair dans quelle direction est-ce que ça s'en va. On le sait, M. Legault, c'est quelqu'un qui a été ministre de l'Éducation. Il balaie du revers de la main la mise sur pied d'une commission parent 2.0 parce qu'il connaît bien ça. Alors, regardez, ils vont y arriver, j'en doute pas. Ils vont y arriver, mais pas en faisant aucune adhésion du système scolaire, malheureusement.
Quel dommage.
Il y a un prof qui m'écrit en disant, qui écoute l'émission et qui dit « La semaine dernière, on était une dizaine d'enseignants entre 40 et 50 ans. Plusieurs quitteraient l'enseignement dès demain s'ils n'avaient pas une hypothèque à payer, si ce n'était pas des enfants. Trois petits points, les conditions de travail, point d'exclamation. »
Mais oui.
C'est clair.
Voilà. Au retour, l'étrange course à la direction du Parti conservateur. Je me présente, je me présente pas, j'enregistre une vidéo, finalement, je décide de pas y aller. Oh, j'ai une famille, fait que là, c'est un autre facteur majeur dans ma décision. Le tunnel La Fontaine.